À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de deux jeunes Vietnamiens remarquables, des rédemptoristes, qui sont morts tous les deux, tragiquement, à 32 ans, comme des martyrs. Et l'un s'appelle Augustin Yep, et l'autre Jean-Marie Dong. J'ai extrait ça d'une œuvre parue à la librairie Alphonsienne à Saint-Anne-de-Beaupré il y a de nombreuses années et intitulée « Profil d'apôtre » par le père Lefebvre, un rédempteuriste. Et nous allons commencer donc par le père Dong, qui est natif, lui, d'un petit village qui s'appelle Kérouac. Il est né en 1912 et il est mort en 1944. C'était au Tonkin. Et ce père Dong fait son cours classique au petit séminaire de Puyik Nac, au vicariat de Phat Diem. Je donne les noms parce que je sais qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui m'écoutent, et cela ça leur rappellera sans doute des souvenirs. Dès sa syntaxe, vous savez, la syntaxe, c'était la deuxième année du cours classique, donc il devait en principe avoir environ 13 ans. C'est l'année où on commence à apprendre le grec dans les cours classiques d'autrefois. Et en voyant quelques rédemptoristes de passage au collège, au séminaire, cela lui donne un grand désir de devenir rédempteuriste. Il les voit avec leur grand col blanc. On les remarquait, ils avaient un col clérical blanc, plutôt que d'avoir un petit carré blanc en avant, ou d'avoir ce col blanc à l'intérieur de leur soutane, comme les jésuites, où on ne voyait qu'une petite ligne blanche. Eux, c'était un grand col blanc tout autour du cou. Et il veut rien d'autre chose donc que de devenir rédempteuriste. Et durant 5 ans, jusqu'à l'âge d'environ 18 ans, quoi, il insiste pour entrer jusqu'à ce qu'on lui permette, enfin, d'entrer chez les rédempteuristes. Et là, il est heureux. Et on peut dire que Dieu, d'un seul coup sec, a fait retentir dans le cœur de ce jeune Vietnamien, ce jeune anamite, comme on disait dans le temps, a fait retentir dans son cœur un appel vraiment irrésistible, ainsi saisissant. Il va mourir comme un saint, vous allez voir. Tout de suite, c'est pour sa vocation un amour qui le dévore, et à son père maître qui lui demande s'il est vraiment attaché à sa vocation religieuse. Bien, il répond qu'il aimerait mieux être haché en petits morceaux. Il n'y va pas de main morte, c'est la jeunesse, l'enthousiasme. Oui, il préfère être haché en petits morceaux que d'y être tant soit peu fidèle, comme il dit. C'est cette protestation de fidélité vraiment solide, là. Il la renouvelle chaque fois qu'on lui en fournit l'occasion, d'ailleurs. On pensera peut-être que ce n'est là qu'enthousiasme d'un jeune. Non. Et il n'y a pas d'emballement chez le frère Dong. D'ailleurs, on voit par sa photo, c'est un jeune homme distingué, comme on dirait. Il a le cou long, il a entouré de ce col blanc, n'est-ce pas, des rédempteuristes, et des lunettes qui lui donnent un air d'intellectuel. Et c'est un homme de vie intérieure. L'un de ses supérieurs, d'ailleurs, a pu dire de lui, si l'on me demandait comment il faut faire pour être un vrai rédempteuriste, tel que notre saint fondateur, c'est saint Alphonse de Ligorie, n'est-ce pas, a voulu qu'on le soit, eh bien, je répondrais sans hésiter, faites donc comme le père Dong, et ce sera parfait. C'est tout un compliment. Sa joie déborde au lendemain de sa profession religieuse. Il écrit « Me voilà rédempteuriste, oh quel bonheur. Bonheur depuis si longtemps désiré, si ardemment poursuivi. » Dans les psaumes, on dit que « Celui qui sème dans les pleurs récolte dans la joie. » Eh bien, j'en ai fait l'expérience. Oui, c'est très vrai. Que pour suivre ma vocation, j'ai dû souffrir beaucoup. Mais que sont ces souffrances comparées au bonheur que j'ai maintenant? Il faut que le bon Dieu soit bien bon et bien miséricordieux pour m'avoir accordé une telle faveur. Et il écrit ensuite en latin, comme vous voyez, ils apprenaient le latin, ces orientaux, « Misericordias Domini in eternum cantabo ». Je chanterai pour l'éternité les miséricordes du Seigneur. Et il ajoute, le jour de ma profession, j'étais bien tranquille. Aucun de mes parents n'est venu me voir. Ils m'ont quitté. Mais c'est moi plutôt qui les ai quittés le premier. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a pris. Oh, qu'il me prenne à jamais. Qu'il me prenne tout entier. Maintenant, je comprends un peu le bonheur d'être tout à Dieu. Que jamais je ne perde ce bonheur. Si c'est un bonheur d'être rédemptoriste, c'en est un bien plus grand de mourir rédemptoriste. C'est le seul bonheur que je désire maintenant. Alors, il est encore loin de l'ordination sacerdotale, et déjà sa pensée va comme d'elle-même vers les âmes à convertir. Et la vue des missionnaires qui partent pour les missions et qui reviennent au couvent, là au Tonkin, au Vietnam, excite son ardeur apostolique. À 26 ans, il écrit, le 26 mars 1938, « Les pères un tel et un tel ont prêché des missions aux environs de La Phu et continueront à missionner jusqu'à Pâques et même après. Quant aux pères un tel et un tel, de leur côté, ils prêchent dans les chrétientés de Tak Bik. Nous attendons leur retour pour apprendre de leur bouche les merveilles opérées. Ah, si nous avions plus de missionnaires, que de bien nous pourrions faire. Nous sommes demandés partout. Mais nous ne pouvons accepter faute d'ouvriers. Actuellement, nous n'avons presque pas de père pour faire le ministère à l'Église. Il est impossible d'entendre toutes les confessions. » Et c'est ce qui habite actuellement des jeunes rédemptoristes ici au Québec, hein, qui ont entrepris des campagnes de recrutement admirables. Ils en recrutent ici au Québec. C'est peut-être une des rares congrégations au Québec qui se recrutent, les rédemptoristes. Alors, notre père, donc, a de vastes ambitions apostoliques. Dans cette Indochine, sa patrie, il est qui est la perle des missions catholiques, comme on disait à l'époque. Il aurait eu un magnifique terrain conquête s'il avait vécu plus vieux. Mais le temps lui est à peine donné de prêcher. Combien de jeunes apôtres, tout en s'excusant de leur jeunesse, font voir aux yeux de tous que leur confiance repose bien plus sur leur inexpérience personnelle que sur la sagesse des anciens. Mais le père Dong, lui, est de ceux qui savent prendre conseil et qui surtout savent suivre le conseil reçu. Et de la jeunesse, il a l'élan, sans en avoir la présomption. Il n'est pas de ceux qui débutent dans la prédication ou dans les œuvres, là, en se fiant qu'à leur propre jugement, en comptant sur des inspirations miraculeuses, surnaturelles. Non, il a un bon sens trop solide. Et la modestie du père Dong est trop profonde pour qu'il n'ait pas spontanément recours à quelqu'un qui est plus expérimenté que lui. Alors, ses études théologiques terminées, quand son tour vient là, de prêcher aux exercices du samedi en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vous savez que les rédemptoristes propagent cette grande dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il suffit d'aller à leur paroisse de Saint-Alphonse, là, qu'on appelle Dioville, près du métro là-bas, la Crémazie, eh bien, on voit une grande mosaïque à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, il soumet toujours son texte, lui, au père, chargé de la correction des sermons. Et on dit, ces sermons sont toujours parfaitement rédigés. Avec quelle bonne volonté le père Dong accepte les observations et qu'il en tient compte. Lancé dans l'action, comme directeur spirituel des Frères Convers, comme organisateur aussi et aumônier de la croisade eucharistique et même de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Catholique, bien le père Dong se renseigne. Il demande conseil aux supérieurs et aux confrères. Il les importune pas quand même. Et on prend autant de plaisir à lui donner quelques conseils qu'il met lui-même de délicatesse à demander de l'aide, d'empressement et ensuite à remercier. C'est un homme délicat, raffiné, comme souvent le sont les Vietnamiens. Au cours de sa première année de ministère, il s'occupe surtout des jossistes, la jeunesse ouvrière catholique, les jossistes, les cœurs vaillants aussi, les âmes vaillantes, tout ça dans la paroisse de Saint-Alphonse de Hanoï. Et sa première retraite, eh bien, il la prêche aux jossistes de la paroisse. Il en prêche bientôt une deuxième à un groupe de jossistes venus des environs de Hanoï. Et la prédication du père Dong est aimée. Pourquoi? Parce qu'il prêche avec beaucoup de conviction et de cœur. Et après un travail apostolique dans une chrétienté du vicariat de Vigne, Le curé, qui l'a assisté, écrit au Père supérieur, « Eh bien, vous avez dans le perdon un vrai trésor. » Quand les pères canadiens reçoivent des Japonais l'ordre de se retirer à Hanoï, le père Dong est appelé à Nam Dinh, aussi distant d'une soixantaine de milles à peu près de la capitale du Tonkin, pour prendre le gouvernement du monastère, déjà. Imaginez, les quelques mois pendant lesquels il exerce les fonctions de supérieur permettent à tout le monde de constater qu'il est très doué pour la direction d'une communauté religieuse. Et là, il a comme le pressentiment qu'il va mourir jeune. Il meurt jeune, en effet, mais d'une manière tout imprévue. Il sera mitraillé par un avion qui survole la route de Nam Dinh Hanoï. C'est le jour où il entre dans sa 33e année, le jour même. Les confrères se souviennent qu'il leur a dit plusieurs fois qu'il ne vivra pas plus vieux que notre Seigneur. La souffrance qu'il aimait le plus, c'était la souffrance que les autres ne voient pas, la souffrance cachée. On le tient ça d'un de ses supérieurs à qui il a avoué plus d'une fois en toute simplicité. Lui, il avait une vie intérieure simple et profonde, qui s'écoulait dans la pensée habituelle de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des âmes. Et ça n'a pas tardé à faire mûrir le fruit qu'on pourrait compter comme le plus beau que puisse produire une âme livrée aux opérations de la grâce, et l'amour de la croix et surtout l'amour du crucifié, crucifié par amour justement. Quand on découvre dans une âme cette perle précieuse, cet amour du Christ, on n'a plus qu'à crier son admiration. La signature la plus authentique du bon Dieu, c'est celle-là. Le sceau dont Dieu marque une âme quand il veut la faire monter jusqu'à lui dans les assomptions vertigineuses, c'est ce sceau-là, un amour éperdu pour Jésus-Christ. Je vous ai dit qu'il est mort prématurément. Tout ça est survenu au cours des derniers mois de 1944. La nouvelle commence à filtrer en Indochine que les envahisseurs japonais ne sont plus aussi chanceux là contre les Américains. Alors, évidemment, les journaux qui sont aux mains des Japonais continuent à proclamer des victoires sans fin, même après le désastre de la journée des îles Salomon. Mais les appareils de radio qu'on a pu cacher chez les rédemptoristes apportent de Londres et de San Francisco un tout autre son de cloche. D'ailleurs, les avions alliés commencent à couper les ponts et le vent tourne à l'optimisme. Là. On souhaite vraiment un débarquement allié. Au point qu'on en est venu à l'attendre d'un jour à l'autre. C'est la fin de la guerre. Japon, États-Unis, les alliés. Pourtant, les semaines passent. Pas de délivrance. Avec dépit, on se dit que les Américains ont oublié l'Indochine, que ce pauvre petit coin de terre ne les intéresse plus. Et un jour, on entend dire que des avertissements ont été donnés par radio de ne pas se hasarder sur les routes, car on y mitraille tout ce qu'on y voit. Mais cela n'est parvenu au monastère que comme une rumeur incertaine. Et personne ne croit qu'il faille prendre cette nouvelle-là au sérieux. Et le 3 novembre 1944, à 4 heures de l'après-midi, l'alerte retentit soudain, et quelques minutes plus tard, deux gros trimoteurs apparaissent à l'horizon. Un, c'est des avions avec trois moteurs. On les voyait, je me souviens, à la fin de la guerre. Ils contournent Hanoï. Pendant que toute la communauté de Nam Dinh les suit des yeux, on ne peut réprimer, évidemment, un frisson, hein? Le bombardier est toujours redoutable. Mais c'est la joie générale quand on constate que les avions s'éloignent sans faire aucun mal. Mais hélas, les rédemptoristes de là-bas ignorent qu'avant de disparaître, ces espèces d'avions qui ont l'air des oiseaux de proie vont prendre le temps d'immoler l'un des leurs, le chef, le supérieur du petit groupe de rédemptoristes de Namdine. La nouvelle parvient au monastère au cours de la récréation du soir. Le frère portier surgit sur la terrasse et crie « Un de nos pères s'est fait mitrailler. » Alors on comprend ce qui s'est passé. C'est le père Dong, supérieur intérimaire. Il était parti quelques heures plus tôt pour conduire un bienfaiteur de la maison à l'hôpital de Hanoï. Sans doute était-il encore sur la route quand les deux avions l'ont survolé. On n'a bientôt plus de détails de la bouche de l'un des compagnons de la victime. Ni le chauffeur, ni les autres occupants de l'auto n'ont vu le trimoteur venir à eux. Et le père Dong était à faire sa lecture spirituelle. Et soudain, un des deux avions plonge et lance une rafale de mitraille, il crible le moteur, il tue le chauffeur, puis il atteint le père Dong. Celui-ci, cependant, semble vivre encore, c'est curieux. On dirait même qu'il n'a rien marqué. Il tient toujours son livre. Il reste dans la position d'une personne qui médite. Et l'un des autres occupants que les balles ont épargné et qui s'était lancé hors de l'auto pour se cacher là, dans la rizière tout proche, lui crie de fuir. Mais déjà, une seconde rafale s'abat, un avion est revenu à la charge, et de nouveau, il tire. Et la mitraille détache la calotte du crâne de ce qui n'était plus déjà que le cadavre du père Dong. Il lui laboure horriblement le flanc gauche. Et le pauvre père est trouvé, tenant encore dans ses mains, couvertes de sang, son livre de lecture spirituelle. Le livre était ouvert sur les derniers mots qui ont été, pour lui, pour cette âme fervente de prêtre et de rédemptoriste, la plus belle des préparations à la mort. Et ce texte expressif de l'imitation demeure lisible sous le sang qui le recouvre. Et qu'est-ce que c'est que ce texte? Je me tairai pour vous entendre, Seigneur, et je me quitterai pour me perdre en vous. Je me tairai pour vous entendre, Seigneur, et je me quitterai pour me perdre en vous. Un rédemptoriste qui a très bien connu le père Dong pour avoir dirigé son âme pendant plusieurs années a écrit un témoignage pathétique. Il écrit, le 3 novembre 1944, un avion mitraille sur la route Nam Dinh Hanoï. Une auto transportant un de nos confrères, jeune père annamite de 32 ans. Puis le père Dong, évidemment. Le pauvre enfant, on peut toujours les appeler des pauvres enfants, ils ont l'air si jeunes hein, à 32 ans, hein, les Vietnamiens. Le pauvre enfant, qui faisait doucement sa lecture spirituelle, n'a pas un éclair pour prévoir son passage à l'éternité. Nous l'avons trouvé, le crâne enlevé et vidé, la moitié du corps, la clavicule à la hanche entièrement déchiquetée. Il avait d'ailleurs gardé sa position, assis, les mains rapprochées l'une de l'autre sur la poitrine, comme s'il eût tenu sur son cœur, pour les méditer un instant, les pages qu'il était en train de lire. Le livre ouvert s'était échappé de ses doigts et était tombé sur ses genoux. Le texte, rougi de sang, nous fit connaître quelle pensée occupait son esprit et son cœur au moment où la mort l'a surpris. Dans l'imitation, on peut donc lire « Heureuse l'âme qui entend le Seigneur parler en elle. Heureuses les oreilles qui perçoivent le murmure divin et ne donnent aucune attention au bruit du monde. Voici ce que lui dit le divin Maître. Tiens-toi près de moi. Et tu trouveras la paix. Laisse là tout ce qui passe. Ne cherche que l'éternel. » Sainte Thérèse d'Avila décrit en quelques mots l'état d'une âme silencieuse parvenue à la parfaite union avec Dieu. Dieu seul et l'âme jouissent l'un de l'autre dans un très profond silence. Je continue le texte de l'imitation. Les lignes les plus ensanglantées citait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'ailleurs, relatant sa première communion. « Qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce jour-là, notre rencontre ne pouvait plus s'appeler un simple regard, mais une fusion. Nous n'étions plus deux. Et l'auteur de ce texte dit, ayant dirigé le Père Dong, je crois fermement que ces paroles expriment l'état d'union intime à notre Seigneur dans lequel il se trouvait quand le bon Dieu est venu le chercher. Il a laissé parmi nous et dans tous les milieux où il a passé le parfum des saints. Le Père Jean-Marie Dong était le premier rédemptoriste annamite ou vietnamien à mourir. Dieu l'a sans doute choisi, lui dont toute la vie a été comme un élan amoureux vers lui. Je vous rappelle que le Père Jean-Marie Dong n'avait que 32 ans. Nous pourrions prier avec saint Alphonse de Ligori. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Saint-Paul, tout petit, petit livre. Priez avec saint Alphonse de Ligori, fondateur des rédemptoristes. Prière à Jésus-Christ pour obtenir son saint amour. Ô mon Jésus crucifié, je vous crois et je vous proclame le vrai Fils de Dieu et mon Sauveur. Je vous adore du plus profond de mon néant. Mon bien-aimé Rédempteur, c'est à vous que je dois entièrement mon salut. C'est par vous que jusqu'à présent j'ai été préservé de l'enfer. C'est par vous que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Mais ingrat que je suis, au lieu de vous aimer, j'ai recommencé à vous offenser. Si par le passé, je ne vous ai pas aimé, maintenant je vous aime. Et je ne désire rien d'autre que de vous aimer de tout mon cœur. Mais sans votre secours, je ne peux rien. Puisque vous m'ordonnez de vous aimer, donnez-moi la force nécessaire pour observer ce doux et agréable commandement. Vous avez promis d'accorder tout ce qui vous est demandé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'ai bien lu ça dans Jean, chapitre 15, verset 7. Alors, confiant en cette promesse, ô mon cher Jésus, je vous demande d'abord le pardon de tous mes péchés, dont je me repens par-dessus tout parce que j'ai offensé votre bonté infinie. Je vous demande la sainte persévérance dans votre grâce jusqu'à la mort. Mais je vous demande surtout le don de votre saint amour. Ah, mon Jésus, mon espérance, mon amour et mon tout. Enflammez-moi de ce feu d'amour que vous êtes venu allumer sur la terre. Allumez en moi le feu de votre amour. Et faites pour cela que je vive toujours en conformité avec votre sainte volonté. Éclairez-moi pour que je connaisse toujours mieux combien vous méritez d'être aimé et l'amour immense que vous m'avez porté, spécialement en donnant votre vie pour moi. Faites donc que je vous aime de tout mon cœur, que je vous aime pour toujours et que je vous demande toujours la grâce de vous aimer en cette vie. Si je vis ainsi sans cesse en vous aimant, et si je meurs dans votre amour, viendra le jour où je vous aimerai de toutes mes forces dans le ciel pour ne plus cesser de vous aimer durant toute l'éternité. Ô Marie, Mère du bel amour, mon avocate et mon refuge, vous qui êtes la créature la plus aimable, la plus aimée de Dieu et la plus aimante, et qui ne désirez que de le voir aimé de tous pour l'amour que vous portez à Jésus-Christ, priez pour moi et obtenez-moi la grâce de l'aimer toujours et de tout mon cœur. C'est à vous que je la demande, et c'est de vous que je l'espère. Amen. Et maintenant, bien, c'est la vie, après celle de Jean-Marie Dong, c'est celle de Augustin Yep. Le père Augustin Yep, au regard de feu, un Vietnamien décidé, quoi. Un Vietnamien moins mystique peut-être que celui dont je viens de vous parler. C'était le 7 mai, lui, 1945. C'était le tour du père Yep de faire le grand sacrifice. Si c'est la mitraille d'un avion qui a fauché le père Dong, eh bien le père Yep, lui, va succomber à son tour d'une autre façon. La population du Tonkin est plus que décimée par toutes sortes de fléaux qui, comme un ouragan, s'abattent sur elle depuis plus d'un an. au cours des années 44-45, sur les routes du Tonkin, surtout celles qui avoisinent la ville de Hanoï, là, surtout celle-là, on assiste à un spectacle lamentable. Les usines se font bombarder par les Japonais. Les ouvriers sont sans travail. Dans les campagnes, les Japonais ont raflé tout le riz. Et des processions de gens exténués, mourant de faim, montent vers Hanoï. Ils ont entendu dire que les Japonais distribuent du riz là-bas. Mais ce n'est qu'une promesse trompeuse. Les agents du gouvernement ont reçu l'ordre de parquer les mendiants dans certains lieux déterminés. Pourquoi? Parce qu'on craint que ces misérables loques humaines, qui transportent avec elles 1000 maladies, ne répandent partout la contagion. Alors on dirige, c'est tragique, c'est miséreux, vers des endroits où on leur a dit qu'ils pourraient trouver à manger, puis là on les y enferme temporairement, jusqu'à ce que le groupe soit assez nombreux, puis on les conduit vers le camp d'extermination, où, comme il manque de tout, ils n'auront plus qu'à mourir de faim. Alors les routes restent tout de même pleines de ces pauvres. Des pauvres qui vous tendent la main en vous assurant qu'il y a plus d'une semaine qu'ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Leur visage amaigri témoigne qu'ils ne mentent pas. Ce défilé de cadavres ambulants se déroule comme ça durant des mois. Il va en mourir près de 2 millions dans cette région du Tonkin qui ne compte pas plus de 12 millions d'habitants. Qui parle de ces drames épouvantables? Personne. Et comme on l'a prévu, la famine est bientôt suivie de son cortège de maladies contagieuses. Il y a le typhus, car ces pauvres gens ne connaissent plus la propreté. Alors le typhus s'abat sur tout le pays comme une lèpre. Et les Japonais ont défendu aux pères rédemptoristes de faire du ministère. On demande à l'occupant de permettre qu'on assiste tant de malheureux. La réponse ne vient pas. Alors les rédemptoristes enfreignent la consigne. Et l'on organise un petit hôpital pour soigner les malades. Si l'on peut faire très peu pour les corps, au moins on assistera les âmes. Alors on réussit à donner à chacun quelques onces de riz, c'est la bonne providence qui, pour quelques charitables bienfaiteurs, le fait parvenir au monastère, là. Mais ce sont les consolations spirituelles, surtout, que l'on réussit à dispenser en surabondance. Ce sont des rédemptoristes au cœur de feu. Alors on baptise, on administre le sacrement d'extrême-onction. Ces gens, qui sont pour la plupart de la campagne, ont de bien belles dispositions, ils savent, et ils disent que ce n'est pas pour revivre qu'ils entrent là, mais pour bien mourir, pour mourir entouré de bons soins. Hélas, on ne peut héberger qu'une fraction des miséreux. Chaque jour passent les charrettes des ramasseurs de morts. Ils portent de 15 à 20 cadavres. On les conduit au cimetière, ou on les jette tout simplement dans une fosse commune. Au monastère, les rédemptoristes se contentent du moins possible, afin d'être à même, évidemment, d'avoir quelque chose à donner, là. Et les pauvres viennent au rythme de 100 à 200 par jour. Et on réussit à leur donner ce qu'il leur faut pour pas mourir de faim au cours de la journée. Il y a les jossistes et les jicistes, la jeunesse indépendante catholique, hein? La jeunesse ouvrière, la jeunesse indépendante. Les jossistes et les jicistes parcourent les rues. Ce sont des Vietnamiens catholiques. Ils ont une bouteille d'eau baptismale à la main. Ils offrent un bol de riz pour soutenir ces corps qui fléchissent. Puis ils proposent le baptême à ces paquets de misère qui titubent vers la fosse. Rares sont ceux qui refusent. Le père Yep, Augustin Yep, se distingue par son zèle pour ces pauvres âmes abandonnées. Il est chargé à lui seul de tout le ministère paroissial, parce que les pères canadiens qui ont reçu des Japonais la défense formelle de se livrer à tout ministère extérieur ne peuvent que confesser, eux. Alors le père Yep se livre sans compter à une activité dévorante, et chaque jour, en ce temps d'épidémie, il doit aller jusqu'à 10 ou 12 fois aux malades, imaginez. Ses nuits elles-mêmes sont souvent coupées d'appels aux moribonds. C'est encore lui qui doit faire la prédication, et le dimanche, aux services paroissiaux, il prêche. le samedi aux 5 exercices qui se succèdent en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, la grande dévotion des rédemptoristes, et qui groupe une foule nombreuse. Et à cette tâche surhumaine, le père Augustin Yep, jeune rédemptoriste vietnamien, malgré sa faible constitution, se livre sans réserve. Il refuse rien, il se prête à tout. Sa devise pourrait être celle de ce fameux Saint-Martin dont je vous ai parlé le 11 novembre. « Je ne veux rien refuser du travail qui doit se faire. » Je ne veux rien refuser du travail qui doit se faire. À l'effort physique exigé se joint l'effort moral. Porter les consolations spirituelles à tant de malades couverts de guenilles, gisant sur la terre nue et souvent dans des ordures, ça exige une énergie sans cesse renouvelée. Et cet apôtre extraordinaire, qui est ce jeune rédemptoriste, qui court à tous les malheureux avec un empressement que l'on aurait dit surnaturel, avoue intimement à un confrère, « Je sens une répugnance inexprimable à m'approcher de ces moribonds puants et couverts de vermine. » Comme quoi, hein, les saints, ils ont les mêmes réactions que nous. La seule différence, c'est qu'ils y vont. Nous, on peut pas, hein, c'est trop difficile. Cette répugnance, s'il ne l'avait pas révélée, personne ne l'aurait devinée tant il semblait heureux de répondre à chaque appel. Là, le 25 avril, après une sortie de nuit et une longue course dans l'avant-midi, il revient fiévreux. Il doit s'aliter. Le lendemain matin, sa fièvre étant tombée, il repart pour une tournée à travers les rues, rempli de mourants. À son retour vers midi, il se sent frappé de nouveau. Et cette fois, la fièvre va le terrasser. L'une des plus dures souffrances de ce jeune prêtre, au cœur de feu, c'est dû être de se voir dorénavant impuissant à secourir tant de misère qu'il l'appelle à leur aide. Les lamentations de tout un peuple aux prises avec la mort montent de la rue jusqu'à lui. Le jour même où le père Yep tombe victime de son dévouement, un père canadien qui vit avec lui décrit ainsi la misère affreuse de tant de gens. Au moment où j'écris ce soir, j'entends sur notre terrain, à deux pas de notre monastère, les cris de détresse de 500 affamés qu'on a transportés ici, hier et aujourd'hui, sans nous rien donner. Bien entendu, pour les nourrir, il faudrait être sans cœur pour ne pas pleurer à la vue de ces pauvres affamés. Hommes, femmes, enfants, qu'on transporte en dehors de la ville pour les laisser mourir de faim. 5 sont morts aujourd'hui chez nous, et des centaines dans la ville et les environs, et cela dure depuis des mois. Les 5 cadavres ont été transportés au cimetière ce soir sur une charrette. On les enveloppe d'une natte, on les met ici en terre sans plus de cérémonie, après les avoir laissés traîner une journée sur le bord de la route. Nous avons conduit ce soir au cimetière une religieuse amante de la croix, c'est une congrégation, ça, les amantes de la croix. Nous avons conduit ce soir au cimetière une religieuse amante de la croix, atteinte du typhus en se dévouant auprès des malades. En arrivant à la porte du cimetière, nous apercevons un enfant de 4 ou 5 ans étendu sur le bord du chemin. Heureusement, il respirait encore et nous avons eu la joie de l'expédier en paradis par le Saint-Baptême. C'était la conception qu'on avait à l'époque. Oh, c'est beau quand même. Et le lendemain, 26 avril, le même père québécois continue sa chronique. Des 500 qui étaient ici hier soir, il ne reste qu'une 15aine de malades incapables de suivre les autres. Comme ils mourront probablement tous si sous peu, nous les avons baptisés tous les 15. Parmi eux, un enfant de 3 ans environ. Son père est mort la nuit dernière. Sa mère ce matin. Son grand frère de 16 ans est à l'extrémité. L'on rencontre ainsi beaucoup de jeunes enfants, seuls sur la route. Il ne faut pas croire qu'ils sont abandonnés par leurs parents d'une façon inhumaine, où le plus souvent, les parents sont déjà morts. Ou ne pouvant plus les nourrir, ils leur disent de partir et de mendier de quoi manger. Nous nourrissons ainsi une famille de 11 enfants. Le père a dû les abandonner parce qu'il n'avait plus rien à leur donner. C'est saisissant ces récits. C'est bouleversant. Et voilà que, dans ces jours d'épreuves indescriptibles, où le dévouement du prêtre annamite, vietnamien surtout, puisque seul il a la pleine liberté de son ministère, peut être une merveilleuse efficacité. Et le typhus abat le père Augustin Yep, celui des pères qui pouvait le mieux remplir les tâches de l'heure. Après 15 jours de maladie, il expire le 7 mai. Qui sait si cet acquiescement à la mort qui venait n'a pas valu aux âmes les grâces que toute une vie d'apostolat aurait à peine suffi à leur distribuer. Il s'agit après tout non de notre œuvre à nous, catholiques sur cette terre. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il faut toujours voir ça dans cette perspective. Le père Yep est né d'une famille depuis longtemps chrétienne. Ses parents, qui sont de condition modeste, habitent un village du vicariat de Biu-Tiu. Dès son petit séminaire, il ressent le désir d'ailleurs de se faire religieux et même religieux rédemptoriste. Écoutez bien ça, c'est assez curieux. Il a révélé plus tard que ce n'est pas tant la vie religieuse elle-même qui l'attire au début, mais plutôt la physionomie extérieure du rédemptoriste. D'abord son sourire, sa joie, mais aussi son beau collet blanc et surtout le grand rosaire qui pend à la ceinture des fils de Saint-Alphonse de Ligorie. Il se sent comme fasciné et cet attrait ne tarde évidemment pas à pousser des racines plus profondes. Si bien que de longues années durant, il sait résister au temps et aux difficultés. Et pendant 7 ans, il fait pression auprès de ses supérieurs pour qu'on lui permette de réaliser ses désirs. Pendant 7 ans, il doit se contenter d'attendre et de prier. Il va même jusqu'à rentrer au grand séminaire où on devient particulier, puis on s'attache à un évêque, et à ce qu'on appelle il s'incardine, hein, ça l'incardine, c'est le terme. Hein. En effet, il y a un règlement du vicariat là-bas qui statue que, pour sortir du grand séminaire et entrer dans un institut religieux, le séminariste doit obtenir une autorisation du Saint-Siège, du Vatican. Mais le séminariste Augustin Yep est tenace. Il dit « Je risquais tout » et l'autorisation du Saint-Siège est venue. Et cette longue épreuve de laquelle il sort victorieux montre quelles sont l'énergie et la confiance qui l'animent. Mais cette ardeur le suit au monastère des rédemptoristes. Il accepte avec joie et courage les petits puis les lourds sacrifices du noviciat. Il s'exhorte lui-même à la générosité en se répétant des pensées fortes et même éclatantes qu'il transcrit dans ses notes spirituelles. Comme diligé et quod vis fac. Aime et fais ce que tu veux. Desiderio desideravi. Ah, j'ai désiré d'un grand désir. Et ses devises et bien d'autres ne répondent pas si clairement à ses enthousiasmes spirituels. Il en compose d'autres à son goût et ses carnets de notes intimes remplis de souffles généreux et sonores font l'admiration de son père maître qui est estomaqué devant la qualité d'âme de cet asiatique catholique. Alors nous retrouvons ce frère Augustin Yep qui n'est pas encore prêtre, qui est entré donc après quelques années au grand séminaire, il est entré chez les rédemptoristes. Il n'est pas né avec cette maîtrise de soi que ceux qui racontent des huit saints, autrefois surtout, se plaisent à imaginer là, dans l'enfance de la plupart de leurs personnages édifiants, quand ils racontent leur vie. Hein. Non, celui dont je vous parle aujourd'hui, Augustin Yep, il est de naturel bouillant. Je vous l'ai dit au début, il a un regard de feu. Ça a l'air d'un jeune Vietnamien spécial. De temps à autre, d'ailleurs, on entend des grondements souterrains. Il fait jaillir ça de lui-même. Il n'en peut plus des fois. Et il essaie de pratiquer la vertu, mais il y a beaucoup de difficultés. La patience, la patience. Parfois même, de plus en plus rarement, semble-t-il, il y a comme une espèce de volcan qui fait éruption chez lui. Il devient en colère. Mais bien vite, Augustin Yep se ressaisit au noviciat. Et heureusement, on le garde. Il s'empresse auprès de ceux qui ont des problèmes afin de tout remettre dans l'ordre et la tranquillité. Alors, en rétablissant la paix autour de lui, il la rétablit au fond de son cœur. Et ce jeune rédempteuriste reconnaît qu'il a un naturel peu porté à l'humilité. Mais souvent, quand il se prend en défaut sur ce point, il se force à se corriger. Hein? Il est encore novice, là, quand il lui arrive dans une conversation de céder au respect humain devant ses confrères. Puis de se permettre, bon, un léger manquement à la simplicité. Alors, dès qu'il se sent coupable, qu'est-ce qu'il fait? Augustin Yep, mais il se rend chez son père maître, puis il le supplie de lui permettre de dévoiler en public sa duplicité, comme il dit, pour perdre la face une bonne fois, puis pour mater ainsi son orgueil qu'il considère comme horrible. Et si, comme la plupart des humains, et même des religieux, oui, ben le frère Yep a des défauts, eh bien, on voit qu'il n'y va pas de main morte quand il se décide à vouloir changer. Mais dans cette âme, où l'on peut découvrir des coins d'ombre, disons, il y a surtout des grands, grands espaces lumineux. Hein? Ah, c'est un type merveilleux, paraît-il. En particulier, cet attachement à sa vocation, mais une dévotion extraordinaire envers Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sa nature prime sautière, qui l'expose à certains oublis dont il se repent vite, d'ailleurs, rend sa présence très agréable. En récréation, on ne s'ennuie pas à ses côtés. Tant il est d'ordinaire joyeux, plein d'entrain et d'esprit. Et quand il commence son ministère comme prêtre, là, il entre dans son élément. Il est heureux, là. Ses premiers sermons, ses premiers catéchismes aux enfants, surtout, prononcés dans une langue simple et imagée, font voir tout de suite qu'il sera un apôtre puissant. Et de l'apôtre véritable, il a aussi l'amour. L'amour. Puis le goût du peuple dont il est sorti. Il aime les gens. Il connaît bien son bon peuple, Annamite. Et comme il le connaît bien, il l'aime éperdument. Il aime surtout les âmes les plus pauvres, les âmes les plus humbles, les âmes les plus abandonnées, comme il dit. Et il lit ça d'ailleurs dans la règle des rédemptoristes. Et il s'est voué corps et âme au salut de ces âmes-là. Le père Augustin Yep, ça s'écrit H-I-E-P, est tombé en plein combat. Son plus ardent désir est réalisé. Il meurt fidèle à sa vocation de rédempteuriste. Il meurt pour avoir répondu jusqu'au-delà de ses forces à l'appel des âmes les plus abandonnées. Il a, avant de mourir, un sourire joyeux que tout le monde remarque. Avec le père Yep, disparaît un apôtre dont la carrière promettait d'être bien fructueuse. Talent facile, esprit perspicace, une belle mémoire, une imagination féconde, puis une grande facilité d'élocution. Et ces beaux dons auraient été de magnifiques instruments dans le travail de la conversion des âmes. Ce jeune rédempteuriste prêchait facilement et bien. Ses catéchismes aux enfants montrent qu'il avait dans ce genre d'auditoire de rares aptitudes. Comment il savait éveiller leur attention et mettre à leur portée les points divers de la doctrine chrétienne. Et toutes ses qualités lui donnaient un attrait naturel et puissant pour la vie active. Il ressentait une joie profonde à se dépenser sans compter. Pour les âmes, et par amour pour notre Seigneur. Son dévouement illimité auprès des victimes de la famine et du typhus a permis à cette richesse exubérante de sa nature de se manifester au grand jour. Le père Augustin Yep exerçait le ministère depuis un an à peine quand il a rejoint dans l'au-delà le père Dong, son confrère dont je vous ai parlé dans la première demi-heure. Et depuis lors, on peut dire que ces deux jeunes rédemptoristes de 32 ans, eh bien, tous les deux, on peut les imaginer qui intercèdent pour leur patrie, le Vietnam. Nous allons prier encore avec le fondateur des rédempteuristes, Saint Alphonse de Ligori, un avocat qui a fondé la congrégation du Très-Saint Rédempteur, les rédempteuristes, que l'on retrouve ici à Saint-Anne-de-Beaupré, et aussi à la paroisse Saint-Alphonse de Ligori, au métro Crémazie. Vous voulez rentrer chez Rédempteuriste, allez voir. Vous savez, ils en acceptent, ils ont un noviciat, ou ils ont plusieurs novices, hein? Ça marche. Ça marche, les rédemptoristes. Prière pour obtenir la grâce de toujours prier. Le saint Alphonse de Ligorie. Dieu de mon âme, j'espère de votre bonté que je suis dans votre grâce et que vous m'avez déjà pardonné toutes les offenses que je vous ai faites. Je vous remercie de tout mon cœur et j'espère pouvoir vous en remercier durant toute l'éternité. Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. Je vois bien que les causes de mes fautes, c'est que je n'ai pas eu recours à vous quand j'étais tenté pour vous demander la sainte persévérance. Mais pour l'avenir, je me propose fermement de me recommander toujours à vous, et spécialement quand je ne me verrai en danger de vous offenser de nouveau. Je me propose de recourir sans cesse à votre miséricorde, en évoquant toujours les saints noms de Jésus et de Marie. Je suis sûr que si je prie, vous ne manquerez pas de me donner la force que je n'ai pas pour résister à mes ennemis. Telle est ma résolution et je vous promets de la tenir. Mais oh mon Dieu, à quoi serviront toutes mes résolutions et promesses si vous ne m'aidez pas, par votre grâce, à réaliser cette décision de recourir à vous dans mes dangers? Ô Père éternel, aidez-moi pour l'amour de Jésus-Christ, et ne permettez pas que je manque de me recommander à vous, spécialement quand je serai tenté. Je suis sûr que vous viendrez toujours à mon secours quand je recourrai à vous. Mais ce que je crains, c'est de négliger alors de me recommander à vous, et que cette négligence puisse être ensuite la cause de ma ruine, c'est-à-dire de perdre votre grâce, ce qui est le plus grand malheur qui puisse m'arriver. Oh, par les mérites de Jésus-Christ, donnez-moi la grâce de la prière. Mais une grâce abondante, qui me fasse toujours prier et prier comme il faut. Ô Marie, ma mère, chaque fois que j'ai eu recours à vous, m'avez obtenu le secours nécessaire pour ne pas tomber, eh bien je recours encore à vous, pour que vous m'obteniez une grâce plus grande, celle de me recommander à votre Fils, et à vous dans toutes mes nécessités et pour toujours. Ô ma reine, vous obtenez de Dieu tout ce que vous demandez, eh bien obtenez-moi maintenant, pour tout l'amour que vous avez pour Jésus-Christ, la grâce de prier et de ne jamais cesser de prier jusqu'à la mort. Amen. C'était une prière de saint Alphonse de Ligorie, extraite de cette toute petite plaquette « Prier avec saint Alphonse de Ligorie », parue ces jours-ci, en 1998, chez Saint-Paul.